À table.
Bienvenue sur Chaud Patate,
l'émission du pâte,
le projet alimentaire territorial du Sud-Lozère.
L'émission qui met en lumière
les acteurs et les actrices
de l'agriculture et de l'alimentation du territoire.
Un mardi sur deux à 11h,
un vendredi sur deux à 8h30.
Sur Radio Bartas.
107 FM.
À table.
Bonjour à toutes et à tous, mangeuses et mangeurs du Sud-Lozère et d'ailleurs. Bienvenue dans le quatrième épisode de Chaud Patate, l'émission du PAT, le projet alimentaire territorial du Sud-Lozère. L'objectif du PAT, relocaliser l'agriculture et l'alimentation. Comment ? En mettant autour de la table toutes les personnes qui s'intéressent à ces thématiques et qui souhaitent s'impliquer pour installer des agriculteurs et agricultrices, développer les circuits courts de proximité, mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation, instaurer l'éducation au goût à l'école ou encore favoriser l'autoproduction. Lors de l'émission précédente, on avait découvert tous les secrets de la lactofermentation grâce à Aurélie de l'association Une Simple Fenêtre. Peut-être avez-vous tenté l'expérience chez vous afin de prendre soin de votre microbiote intestinal après les fêtes de fin d'année. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, on se rend à l'école de Ventalon en Cévennes pour rencontrer David Monnier, cuisinier de la cantine mais aussi de la table d'hôte Bulldo 2. Cuisine de saison et respectueuse des produits, c'est le dénominateur commun des repas qu'il propose à ses petits et grands clients. Il nous parlera de la mention Nature et Progrès dont bénéficie la cantine de Ventalon, et notamment de l'impact que ça a sur ses méthodes d'approvisionnement, de son engagement dans le collectif Les Pieds dans le Plat, et nous présentera le repas du jour. En fin d'émission, on écoutera la chronique Jardin de Jean-Jacques, jardinier amateur membre de l'association Jardin Nature 48, qui nous présente chaque mois comment obtenir des bons et beaux légumes tout au long de l'année. Aujourd'hui, on parlera assolement, semis de solanacées et couche chaude. Et on salue Léo à la technique.
Chaud patate
sur Radio Bartas
107 FM.
La restauration collective, c'est-à-dire un type de restauration hors domicile dont l'activité consiste à produire un repas aux convives d'une collectivité déterminée, un établissement scolaire, un EHPAD ou une entreprise par exemple, à un prix modéré, fait face à plusieurs enjeux en matière de durabilité. La loi Egalim oblige à atteindre 50% de produits durables et sous signe d'origine et de qualité, dont 20% de bio, dans la restauration collective. Comme l'avait pointé Louise Denisot lors du premier épisode de Chaud Patate, que vous pouvez retrouver à l'écoute sur le site internet de Radio Bartas, la taille réduite et l'isolement de certaines cantines du Sud-Lozère représentent des freins à l'approvisionnement local. Cela peut aussi être une difficulté pour les consommateurs et consommatrices lambda. En effet, 47% de la population lozérienne est théoriquement dépendante de la voiture pour effectuer ses courses alimentaires, contre 24% en France, d'après l'outil Crater. Des leviers existent, et c'est entre autres sujets, ce dont nous avons parlé avec David Monnier. Place au reportage. Alors bonjour David, merci de t'accueillir dans ta cuisine, plutôt dans l'une de tes cuisines. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, d'où tu viens, tes différentes activités ?
Je m'appelle David Monnier, je suis restaurateur, donc ça fait 37 ans que je suis dans le métier. Si je dois énoncer mon CV, c'est un peu long, je vais faire un peu plus concis. Avant de venir en Lozère, j'étais restaurateur à Bruxelles où j'avais un restaurant gastronomique qui était référencé Guide Michelin, Go Emilio. On faisait partie des 900 meilleurs restaurants en Belgique-Luxembourg. Et il y a eu un autre projet de vie et je suis venu m'installer en Lozère. Ça fait maintenant ça va faire 9 ans. Et à Ventalon en Cévennes, j'ai ouvert une table d'hôte et une maison d'hôte, gîte. Voilà, et la particularité, je fais une cuisine à base de plantes sauvages et de plantes potagères et fleurs.
Donc tu as cette table d'hôte et donc tu es aussi cuisinier à l'école de Ventalon. Comment tu arrives à jouer entre ces deux activités et quelle complémentarité ça a d'être à la fois en restauration collective scolaire et aussi sur une table d'hôte?
Devenir cuisinier à l'école de Ventalon en Cévennes, ça a été un peu le hasard. Quand je suis venu m'installer à Ventalon, j'étais formateur aussi à Bruxelles dans un centre de formation. Et pendant 3 ans, j'ai fait des allers-retours entre la Lozère et Bruxelles. Ça commençait à devenir un peu difficile. Et puis, pour sécuriser mon affaire qui était en plein lancement, il y a eu un poste qui s'est libéré à l'école. On m'a proposé de venir travailler. Et ça s'est mis comme ça. Mais à l'école, je travaille que 2 jours par semaine, le jeudi, vendredi. parce que bon, à côté, j'ai mon activité de touristique. Et hors saison, ben, je donne des formations dans les écoles, les collèges, voilà, à titre privé ou avec le collectif Les Pieds dans le Plat.
Du coup, est-ce qu'il y a une différence entre ta manière de cuisiner en table d'hôte et celle dans la cantine de Ventalon?
Oui, quand même, mais je veux dire, fondamentalement, les bases restent les mêmes. Donc, il y a le respect du produit, respect des cuissons, je fais attention aux assaisonnements, aux modes préparatoires. Ça m'arrive d'être parfois fantaisiste, de faire vraiment des petites choses qui se rapprochent de la restauration traditionnelle, voire gastronomique pour les enfants. Et voilà, ça fait partie de l'éducation au goût et de la découverte visuelle aussi, parce que le manger, ça passe par les yeux.
Du coup, la cantine de Ventalon, elle bénéficie de la mention Nature et Progrès depuis 2008, il me semble. Et est-ce que, enfin voilà, comment ça s'est mis en place et qu'est-ce que ça implique sur ta cuisine, ton approvisionnement?
Ça a été une volonté politique, je veux dire, de politique et commune avec les parents, enseignants et donc la mairie. Je veux dire, ça passait, Nature et Progrès, ça passe par la reconnaissance du travail bien fait et la valorisation des produits, des acteurs locaux qui produisent notre nourriture. Et qu'est-ce que ça implique? Il y a un cahier des charges à respecter, hein, je veux dire, donc on doit être entièrement 100% bio. Donc on n'a pas attendu la mairie n'a pas attendu la loi Egalim. Alors ce que ça implique, c'est que il y a certaines contraintes. On ne doit pas avoir de plastique, de micro-ondes, de poêle Tefal. L'approvisionnement, comme je disais, il doit être 100% bio, donc ou Nature et Progrès, et on n'a même pas le droit, on n'a pas le droit aux produits AB, donc c'est un challenge, mais c'est un challenge réalisable, sans, il n'y a pas de difficulté particulière.
Au niveau de l'origine géographique des produits locaux, comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a une offre locale qui est satisfaisante?
Il y a une offre qui est satisfaisante, mais en fonction de la saisonnalité. Hein, je veux dire, la production locale, elle commence à donner un peu à partir de mai, hein, je veux dire, en fonction de la météo. C'est de mai à fin octobre. Fin octobre, on arrive à trouver du local, mais la principale difficulté, c'est les livraisons. On est une petite école, on est un peu excentré, pour faire venir, par exemple, de la viande, c'est pas évident. Au niveau du maraîchage, ça va encore, on se débrouille. J'ai deux maraîchers. Du coin, il y a Christophe Leclerc et il y a aussi la ferme des Crozes qui est à moins de 15 km. On a Bastien, le port des Cévennes là, qui est au collège d'Aise. Voilà, c'est pareil, il faut vraiment s'organiser, il faut communiquer avec eux, c'est la base quoi. Je veux dire, c'est un partenariat. Et sans ce partenariat et cette communication, ça fonctionne pas, quoi. Général, il faut être à l'écoute des besoins des uns des autres. Et aussi, comme on est sûr des produits, c'est pas sous serre. Il y a plein de variantes. Il peut y avoir les bestioles qui mangent la production, le chevreuil qui vient attaquer. Nous, en tant que professionnels et cuisinier, on doit faire avec et on doit s'adapter aussi. C'est pas au producteur de s'adapter, c'est au cuisinier s'adapter à la production. Et puis ça se passe bien. À mon échelle, il n'y a pas de souci, je suis une petite école. Maintenant, il faut imaginer si on doit servir 200, 300, voire plus, on a moins le droit à l'erreur. Donc. C'est là où est la difficulté, quoi.
Et au niveau des produits laitiers, vous en prenez où?
Mais alors, le principal fournisseur, c'est Biocoop Restauration. voilà, Biocop Restauration, c'est vraiment la roue de secours. En termes de produits laitiers, voilà, c'est quasiment à 100% chez eux que je me sers. Mais après, je ne travaille pas non plus, je veux dire, c'est bon, du lait, de la crème, du beurre. Je veux dire, les yaourts, j'en fais très peu. Je fais beaucoup de desserts maison, je fais des verrines. Voilà, j'essaie de transformer un maximum le produit, quoi, et pas travailler avec des produits finis, même bio.
Et Biocop Restauration, ils sont basés où du coup? Ils viennent d'où jusqu'à Ventalon?
Alors Biocop Restauration, y a une plateforme qui est sur Toulouse. C'est bon. Alors de Toulouse, je passe la commande une semaine à l'avance, et quand je commande de la viande, il faut une précommande de 3 semaines à l'avance. Donc c'est pas évident. Et des fois, ça arrive, je passe ma commande de viande 3 semaines avant, et le jour de livraison, il y a des ruptures. Donc ça, c'est problématique. Alors ils sont basés, donc comme je disais, sur Toulouse. Il y a une plateforme. Cette plateforme est envoyée du côté, envoie la palette vers Milo. Bon, l'impact carbone n'est pas terrible, c'est ça, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et de Milo, c'est la société Galdis qui vient nous livrer une fois par semaine. Donc nous, c'est le vendredi. Bon, je préférerais que ça soit le lundi pour éviter que les produits aient trop de frigo, mais bon. Voilà, on n'a pas le choix, mais ça fonctionne quand même bien. Les produits, on a quand même des produits de qualité, frais, et donc il y a une durée de vie assez intéressante. Généralement, au bout de la semaine, ils sont consommés.
Donc il y a aussi un groupement d'achat, donc il y a Nature et Progrès, mais vous ne l'utilisez pas forcément. Comment vous fonctionnez du coup
Alors, on fonctionne via l'éco-relais. L'éco-relais, c'est un groupement d'achat qui a été créé, je ne sais plus la date exactement, mais c'est Christian Rameau, le directeur de l'école, qui gère ce groupement. Deux fois par an, il y a des achats qui sont faits via Biocop, Senfas et les producteurs locaux. Et je veux dire, bon voilà, on achète en gros, puis je veux dire, les gens, les locaux, les gens de Ventalon, Saint-Privat, des communes avoisinantes passent une commande, et après il y a une redistribution. Alors, éco-relais par rapport à l'école, c'est que c'est éco-relais qui achète la marchandise chez Biocop et qui refacture à la mairie. Et le surplus d'achat, parce que chez Biocop Restauration, il faut acheter minimum pour 300 € ou 100 kg de marchandises. Mais 100 kg de marchandises pour l'école, c'est beaucoup, parce qu'on fait en moyenne 35-40 repas. Donc, en termes de légumes et le conditionnement aussi, généralement, voilà, si on achète, on ne peut pas acheter au détail. Donc, on reçoit 10 kg de pommes de terre, 15 kg de carottes, voilà. Moi, je prends ce que j'ai besoin pour l'école, et le reste est racheté par moi-même, par Christian, par les enseignants et des parents, voilà. Et après, c'est refacturé. Donc, c'est comme ça aussi qu'on arrive à pérenniser notre partenariat avec Biocop. Sinon, voilà, 100 kg de marchandises ou 300 €, des fois, ça fait un peu beaucoup pour la semaine. Et je trouve que c'est une chouette alternative et puis initiative aussi. Je veux dire, comme ça, on peut profiter des produits aussi, et à moindre coût. Parce que chez Biocop Restauration, c'est moins cher qu'en magasin.
Que ce soit l'école ou les privés pour leur consommation personnelle, c'est toutes les semaines du coup?
C'est toutes les semaines, oui, suivant le stock qui reste, quoi. Voilà, si j'ai besoin de... je commande 10 kg de carottes, si j'ai besoin de 6, il reste 4, et pareil pour les autres légumes. Donc après, je dis ce qui reste. Voilà, il y a des... moi, personnellement aussi, pour ma table d'hôte en saison, je me sers davantage, même je commande un peu plus, donc je profite aussi de l'éco-relais et aussi des tarifs, parce que c'est hyper intéressant. Et ça m'évite aussi de me déplacer. Voilà. Donc j'ai la marchandise qui arrive sur place. voilà, tout le monde, non, tout le monde est content et retrouve. C'est sûr que je ne peux pas non plus, voilà, ça fait profiter 5, 4, 5, 6 personnes, ça dépend, des fois pas, des fois, voilà, j'essaye de gérer au mieux pour pas qu'il y ait de pertes.
Oui, là tu parlais de légumes, c'est aussi, ça fonctionne aussi pour l'épicerie sèche du coup.
Oui, tout à fait, tout ce qui est épicerie, voilà, les pâtes, le riz, les légumineuses, bah, tout. Voilà, bon, après de temps en temps, on se sert aussi chez Julien Tosse à Florac là, pour les pâtes. Voilà, on essaye de faire travailler quand il y a des choses intéressantes, le miel, la châtaigne, bah, forcément quoi. Mais ouais, chez Biocoop, ouais, c'est l'épicerie aussi, pas que légumes, viande et tout ce qui est laitage.
La mention Nature et Progrès, j'avais aussi vu que, enfin, cru comprendre que ça avait un impact aussi sur la manière dont se déroule le repas, avec, enfin, l'ambiance de la cantine, parce que ben souvent on dit que dans les restaurants scolaires, par exemple, il y a beaucoup de bruit. Donc, est-ce que là sur cette cantine-là, la mention Nature et Progrès, elle a un impact?
À la base, je veux dire, on est la première cantine de France à avoir cette mention. Mais je veux dire, c'est au bout du compte, cette mention, c'était avant tout, c'était pour l'alimentation, pour les produits. Mais avec maintenant, en prenant du recul, de la hauteur et l'expérience aussi, c'est des choses qui pourraient être rajoutées au cahier des charges, le bien-être pendant le temps de repas des enfants. C'est... il y a toute une pédagogie. Moi, j'ai la chance d'être au contact des enfants. Ça, c'est génial. Donc, je peux rectifier. Voilà, je suis en permanence en apprentissage. J'observe les enfants. Ici, on est à Ventalon. Des fois, il y a 20 gamins à table. Mais c'est 20 gamins avec 20 identités différentes en termes de culinaire. Donc, bah, c'est pas évident de faire à manger aux enfants. Donc, cette pédagogie, c'est d'amener, s'il dit « j'aime pas », c'est de les accompagner et de respecter aussi leur rythme. Aujourd'hui, il y a du chou-fleur. Ben, je sais qu'il va avoir les réfractaires, mais ce chou-fleur, ben, voilà, je vais parler de ce chou-fleur, comment il a été cuisiné. Je vais les inviter à goûter, mais surtout pas les braquer. Et moi, ça fait 5 ans et je vois vraiment une différence. L'approche et les enfants ont confiance. Je veux dire, voilà, c'est cette confiance mutuelle que moi, je ne vais pas les brusquer à vouloir les faire goûter. Et je veux dire, cette confiance s'installe et c'est vraiment génial, quoi. Et les enfants vont faire l'effort de goûter. Je veux dire... sans que je leur demande maintenant. Voilà, ça fait partie de cette pédagogie avec Nature et Progrès qu'on pourrait mettre en avant et développer aussi.
Tu disais tout à l'heure que tu donnais aussi tes formations dans le cadre du collectif Les Pieds dans le Plat. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ce collectif et ben, quelles activités il mène, les formations, etc.
Le collectif Les Pieds dans le Plat, je l'ai intégré maintenant il y a 2 ans. Et c'est un collectif qui a été créé il y a un peu plus de 10 ans maintenant. L'idée, c'était des cuisiniers qui en avaient marre de c'est essentiellement tourné vers la restauration de collectivité. Et donc, c'est un groupe de cuisiniers qui en avaient marre de faire à manger des produits de l'industrie agroalimentaire. Et souvent, c'est des cuisiniers aussi qui venaient du traditionnel et ne comprenaient pas qu'on puisse faire si mal à manger. Et donc, il y a eu un peu cette révolte. Voilà, et il y a eu ce collectif qui est né. Et petit à petit, ils ont commencé à proposer, à faire des formations. Alors, la particularité du collectif, les formations se font en binôme. Il y a un cuisinier, une diététicienne. Donc, la diététicienne intervient généralement en début de formation et apporte tous les éléments de réponse au cuisinier. Pas forcément des choses très académiques, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, c'est plus général. Il y a beaucoup plus de rondeur. C'est de la compréhension, voilà. Comme aujourd'hui, mon plat végétarien, à l'école, ben, il est équilibré. Il y a des légumineuses, il y a des céréales, il y a du laitage, il y a tout ce qu'il faut. Donc, c'est, je veux dire, c'est un partenariat gagnant-gagnant, je veux dire, entre le cuisinier et cette diététicienne qui va apporter, je veux dire, cette notion d'équilibre. Elle ne va pas venir, il faut tant de calories ou autre. Non, c'est vraiment, on va travailler sur l'équilibre alimentaire. Et c'est ça qui est génial. Et donc, le collectif, là, il intervient sur toute la France. Hein. Il fait des accompagnements qui peuvent durer, des formations ponctuelles sur une thématique, la notion de bio, le végétarisme. Et voilà, donc et après, il peut en découler des formations beaucoup plus longues qui peuvent durer 3 mois. Il y a de l'immersion. Donc, je veux dire, le cuisinier et la diététicienne sont avec les cuisiniers et ils accompagnent. Et généralement, ça fonctionne bien au bout de ces quelques mois. Vraiment, on voit vraiment une métamorphose de la cuisine. Et puis, quand on part de 0% de bio, que des fois on arrive à 60-80%, c'est énorme. Et tout ça en quelques mois. Et aussi, je veux dire, on démontre aussi que le bio n'est pas plus cher que le conventionnel. C'est faux, je veux dire parce que souvent, moi, quand je vais en formation, je regarde les économas, il y a beaucoup de produits finis, des fonds en boîte. Et ces fonds en boîte, par exemple, ils ont un coût. Ça coûte très cher pour faire une sauce, quoi, au bout du compte. Alors que les sauces, on peut les faire nous-mêmes à base d'un bouillon. Au lieu de jeter les épluchures, on peut faire un bouillon d'épluchures. C'est aussi réapprendre à cuisiner aux cuisiniers. Souvent, on dit c'est interdit. Mais au bout du compte, il n'y a pas de choses vraiment interdites. Je veux dire, il y a des choses à respecter en termes d'hygiène. Je veux dire, on a une obligation de résultat. C'est ça. Je veux dire, il faut faire cette nuance. En respectant cette obligation de résultat, on peut introduire des œufs coquilles, on peut refaire ses sauces. Je veux dire, et tout ça, c'est économiquement, ça se ressent au bout du compte sur la finalité du plat, du coût. Je veux dire, le coût, il peut être abaissé aussi en gérant mieux les quantités, en faisant attention au gaspillage, en réutilisant les produits, en retransformant. Il y a plein de solutions. Au bout du compte, et puis choisir ses fournisseurs aussi, travailler en local. Je veux dire, ce partenariat, en réduisant les intermédiaires, ben forcément, on réduit les coûts aussi. Il n'y a pas de secret, quoi. Ça, c'est au chef de cuisine. C'est une volonté personnelle aussi. Je veux dire, si on n'est pas convaincu de ce qu'on fait, ben, ça ne fonctionne pas.
Là, les formations et l'accompagnement que toi, en tant que cuisinier du collectif, c'est à la fois accompagner les cuisiniers de la restauration collective dans leur manière de cuisiner et de respecter l'équilibre alimentaire, et aussi sur ce qu'il y a autour de l'approvisionnement et du limiter le gaspillage alimentaire. C'est vraiment tout, c'est global, quoi.
Exactement. On part du producteur à la finalité, donc c'est au consommateur, je veux en dire. Donc tout est analysé, on revoit ses pratiques, mais pour revoir ses pratiques, il faut se remettre en question. Voilà, c'est sinon ça fonctionnera pas. Mais le métier de cuisinier, c'est un chouette métier. Et puis on transforme des aliments. Il y a un côté magique, quoi. Je parle ce matin de mon chou-fleur. Le chou-fleur, j'aurais pu le mettre dans une casserole, le faire bouillir, et du chou-fleur bouilli, bah, c'est pas terrible. Là, ce matin, simplement, je l'ai mis au four, je l'ai rôti, il y a eu une petite coloration qui s'est faite, et ben, cette petite coloration, elle apporte un petit goût vraiment sympa, et pas de chou-fleur bouilli où les enfants vont se boucher le nez, ils vont faire la grimace, bah, que ça sent mauvais.
Sur le territoire du sud Lozère, tu as pu faire une formation dans le cadre du collectif Les Pieds dans le Plat avec des cuisiniers?
Personnellement, le sud Lozère, ça s'est arrêté à Florac. Donc oui, il y a eu des formations sur Florac, mais c'était un de mes collègues, Hervé. Et moi, par contre, je suis intervenu sur Mende, Marvejols, Langogne. Voilà, j'ai fait découpe des carcasses aussi. C'était l'idée, c'est de réintroduire des carcasses d'un agneau entier travaillé, valorisé aussi. Ben, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on échangeait tout à l'heure. Au lieu d'acheter des pièces de viande qui coûtent cher, on peut acheter une pièce de viande sur la carcasse qui va coûter 5-6 euros à la place de 18 euros alors que c'est piécé. Je veux dire, ça aussi, c'est remontrer aux cuisiniers qu'on peut travailler de la carcasse. Voilà, j'ai travaillé aussi sur l'introduction des protéines végétales. Je veux dire, voilà, sinon, souvent, on voit la protéine végétale, les cuisiniers ils font la grimace. Et après, c'est de la compréhension. Je veux dire, c'est convaincre, je veux dire, par la démonstration aussi, le collectif. C'est pas on arrive avec de la théorie. Il y a une petite partie de théorie, mais avec quand je fais la formation, je suis avec les cuisiniers, je suis avec eux, je découpe, je leur montre, je cuisine, je leur montre que c'est possible. Je leur fais découvrir des céréales autres que le riz, les blés, comme souvent ils connaissent que ça. Donc voilà, on va travailler du sarrasin, on va travailler des variétés de blé ancien. C'est de découvrir toute cette palette qu'on a à notre disposition, je veux dire, et qu'on trouve aussi justement dans les magasins bio. Souvent on dit comment tu fais, je dis va dans un magasin bio, regarde dans les rayons et tu vas voir qu'il y a plein de choses. Je veux dire, la découverte elle passe aussi par la curiosité.
Le repas de ce midi, est-ce que tu peux nous décrire un peu les différents plats et...
Alors aujourd'hui on fait végétarien à Ventalon en Cévennes, on fait deux fois végétarien. Alors aujourd'hui j'ai préparé en entrée des petites galettes de céréales, que je vais mettre à poêler. J'ai mixé du poireau cru dedans, il y a du flocon d'avoine, qu'est-ce qu'il y a encore dedans, il y a du quinoa. Il y a des oignons, voilà, et tout ça. Bon, après, je vais le poêler pour le donner une petite coloration, pour qu'il y ait ce côté croustillon. Voilà, là, j'ai travaillé entre le cru, j'ai laissé le poireau cru dedans. Voilà, souvent, comme un peu les Asiatiques qui font ça, on met le poireau, des fois, on le fait souvent bouillir, mais on peut le manger dans une préparation en l'introduisant cru. En plat, j'ai fait un gratin de quinoa. J'ai travaillé autour du chou aujourd'hui, donc chou-fleur rôti, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc je l'ai rôti au four. Et après, le chou pashkoï. Donc chou pashkoï, c'est un chou un peu vert, qui n'est pas très fort, mais j'ai travaillé la feuille et la côte. Je l'ai fait sauter avec de l'ail. Voilà. Et donc là, j'ai fait une petite béchamel pour apporter un peu de viscosité, je veux dire un peu de petite sauce. Et avec un peu de fromage, et je vais mettre tout ça à gratiner. Voilà. Et en dessert, j'ai fait un dessert un peu classique. J'ai fait des poires amandines, donc des poires que j'ai pochées maison. Hein. Ce n'est pas des poires en boîte. Donc j'ai poché ces poires dans un sirop avec un peu des épices orange, des zestes d'orange. Et j'ai fait une crème d'amande. Voilà. Puis j'ai mis ça au four. Voilà. Et alors aussi, ce que j'ai remarqué aussi pour les enfants, je laisse cette alternative du dessert. S'ils veulent pas de dessert, ils mangent un fruit. Voilà, il n'y a pas d'obligation de. Parce que avec l'observation, j'ai vu qu'il y avait des enfants, ils n'aimaient pas les desserts. Donc voilà, donc je leur donne un morceau de fromage s'ils veulent, un fruit. Il y a vraiment cette liberté et le respect aussi de. Du goût et des choix de l'enfant, quoi. Enfin, que dans la limite du possible.
Et dernière petite question, est-ce que tu as un aliment de saison préféré et une manière de le préparer?
Oui, j'ai un petit faible pour la betterave crapaudine. J'aime cette c'est une betterave qui ressemble à un radis noir, elle est tout en long. Et je trouve que cette betterave, elle est extraordinaire. Je la mets simplement au four, dans la peau. Et comment dire, je la coupe en deux, je mets juste un peu d'huile d'olive, un peu de gros sel, et je la mange comme ça. Et bon, bah voilà, c'est pareil, je l'essaye de la faire découvrir aux enfants. Bon, c'est pas évident des fois, mais bon, ils se laissent prêter au jeu, quoi.
Merci beaucoup à David de nous avoir parlé de son métier de restaurateur, à la fois dans une cantine et pour une table d'hôte. J'espère que ça aura donné envie aux auditeurs et auditrices de Chaud-Patate de venir s'asseoir à sa table, mais aussi de repenser leur manière de s'approvisionner, de cuisiner et de manger. Et si des restaurateurs ou restauratrices passent par là, peut-être que ça leur aura donné des idées.
Le ciel est clair sur le chemin de l'école, le cartable lourd plein d'antisèches. Un livre d'histoire, c'est là que je rigole, un bleu jean tout blue sur les fesses. Il part rejoindre ses deux petits potes qui ont la peau bien plus blanche que lui, et dans leur poche un bout de plastoc qui leur donne le droit d'être ici, devant la grille de cet endroit où l'on devient des citoyens. Y'a trois soldats qu'envoie le roi pour briser les rêves. Il manque un môme sur la photo de classe de l'école Jacques Prévert. Il pose en ce moment sous les flashs de l'objectif d'un Karcher. Et avait de la pression dans le tuyau et du recul jusqu'au charter de ce pays qui remue bien haut. Trois jolis mots sur sa bannière. Allez salut, pleure pas petit, tu rentres chez toi et reste-y. Le seul transit qu'on autorise là-bas, c'est celui des fusils. Expulsez-moi, je suis mort français néen, putain de terrien qui pisse sur vos jolies frontières. Moi, j'appartiens au genre humain. Moi, mon pays, c'est la terre.
Le ciel est clair sur le chemin du retour au pays natal, comme on dit. Un sac de voyage pas bien lourd pour y caser toute sa vie. Il part rejoindre sa grande famille qu'il connaît pas même en photo, quelque part entre le Mali et le Burkina Faso. Comme il n'est pas vraiment en joie de cette expérience du lointain, y a trois soldats qu'envoie le roi pour tenir en laisse un gamin. Il manque mille noms sur la grande liste des objectifs du ministère. Il prie Dieu pour que la police n'y ajoute pas son frère qui crèche dans un squat moisi, est exploité par un boucher, met en péril l'économie et surtout ne le reverra jamais. Lui, perdu dans son aéroport, on ne lui donne que la sortie et ce putain de bout de plastoc qui lui dit ta vie c'est ici.
Expulsez-moi, je suis mort français néen, putain de terrien qui pisse sur vos jolies frontières. Moi, j'appartiens au genre humain. Moi, mon pays, c'est la terre.
Des litres d'urine sur vos frontières, car moi, mon pays, c'est la terre. Expulsez-moi,
expulsez-moi, je suis pas français.
Moi
j'appartiens au genre humain.
Expulsez-moi, mon pays c'est la terre. Des lits d'urine sur vos frontières. Moi mon pays c'est la terre. Expulsez-moi, expulsez-moi, je suis pas français mais un putain de terrien qui pisse sur vos jolies frontières. Moi j'appartiens au genre humain. La terre.
Patate
sur Radio Bartas
107 FM. Et on passe à la chronique jardin.
Je te transmettrai ma façon de cultiver. Je lui dis, bah super, voilà, je vais apprendre à faire un potager correctement, avec des bonnes techniques, tout ça.
C'est l'heure de la chronique jardin présentée par Jean-Jacques.
C'est quoi notre quartier ? C'est le potager !
Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Alors on est fin janvier au moment de l'enregistrement de l'émission. Donc les activités au jardin vont commencer à s'accélérer. Mais attention à ne pas partir sur les chapeaux de roue et à ne pas voir trop grand. Jean-Jacques, toi ton jardin il est assez conséquent. Est-ce que tu as une idée de la surface que ça représente ?
Alors le jardin fait à peu près 1300 mètres carrés. Mais bon, 1300 mètres carrés, je suis raisonnable. Je fais à peu près 300 mètres carrés de jardin. C'est-à-dire un jardin potager.
Ok. Et sur le reste de la parcelle, du coup, tu...
Il y a des pelouses, il y a des arbustes, il y a des arbres, il y a des bambous, il y a des espaces un petit peu des bordures, il y a une petite mare. J'essaie de varier pour que tous les écosystèmes soient un petit peu représentés.
Et du coup, là, donc, avec 300 mètres carrés, est-ce que tu as débuté avec cette superficie-là ou tu y as été progressivement au niveau de la taille ?
Alors, j'y ai été progressivement, mais bon, ceci dit, moi, j'ai appris le jardinage tout petit. À peu près, je devais avoir 5 ou 6 ans, et avec mon père. Donc, nous avions toujours des grands jardins avec des grandes raies de légumes. Donc, moi, on peut dire que j'ai commencé un peu grand, mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire.
Et comment tu t'organises sur une saison et entre les saisons pour savoir ce que tu prévois de mettre en culture ou ça, comment tu organises tes cultures?
Voilà. D'abord, on est à Espagnac. Mon jardin est à Espagnac. Il faut relativiser un tout petit peu le climat d'Espagnac par rapport au climat de Bar des Cévennes ou de Langogne. Hein. Je dis ça en préambule parce que tout au long des émissions, on va parler de semis et il est bon de relativiser, en particulier avec l'altitude, les dates. Hein. Si je vais juste donner un exemple, je l'ai dit, mais je vais le redire. Si on est à Alès, on va planter ses oignons le 1er février, altitude 100. Si on est à Espagnac, altitude 520, on va planter ses oignons le 1er mars. Il y a un mois de décalage de climat entre Alès et Espagnac. Et si on est à Langogne, altitude 900, eh bien, on plantera ses oignons le 1er avril. Il y a encore un mois de décalage. Et c'est valable dans l'autre sens à l'automne. L'automne arrivera toujours un mois plus tôt à Langogne qu'à Espagnac, puis à Alès. Donc ça peut, faut bien le prendre en considération. Voilà. Moi, je m'organise, pour faire un grand jardin comme je le fais. Il faut, j'ose dire, avoir toujours un temps d'avance. Il faut être organisé. Il y a plusieurs aspects. Comme je dis aux gens, l'été, je prépare déjà mon jardin de l'année d'après. Au vu de ce que j'ai planté dans mon jardin, je sais où j'ai planté mes pommes de terre, je sais où j'ai planté mes tomates, je sais où je vais mettre mon compost ou mon fumier. Et avec ces quelques paramètres-là, je détermine un petit peu les prochains travaux et le plan de jardin de l'année d'après. Et je commence aussi à fertiliser mon jardin d'une année sur l'autre. C'est pour ça que je fertilise mon jardin à l'automne. Donc là, au jour d'aujourd'hui, mon jardin a déjà été fertilisé. L'étape fertilisation est déjà une étape qui a été faite. Donc déjà, je pense que c'est le premier concept du jardinier, c'est de faire tout ce qu'il peut faire un petit peu en avance. Par exemple, c'est pas quand on va aller semer ses légumes qu'il faut ce jour-là aller préparer son terrain pour que le terrain soit apte à accueillir les graines. Prendre de l'avance. Voilà. On voulait aussi parler un petit peu des avantages un premier conseil qu'on peut donner aux jardiniers amateurs, aux jardiniers qui n'ont jamais jardiné ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui veulent se lancer, c'est de, faut toujours commencer par un petit jardin. C'est pour ça que j'ai dit que moi j'étais peut-être un petit peu une exception parce que mon père avait des grands jardins. Parce que un jardin, ça va obligatoirement être beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, beaucoup de temps surtout. Et le monde moderne veut que le temps nous manque souvent. Alors le temps ou le courage, bon. Donc on commence par un petit jardin et vous verrez que quand vous aurez commencé un petit jardin, ça va être plus pratique pour amender, ça va être plus pratique pour s'organiser, pour arroser. Vous aurez déjà des résultats et vous pourrez ensuite, au fil des mois, au fil des années, passer si vous pouvez, à plus grand. Voilà.
Et au niveau des planches de culture et du plan de culture, est-ce que tu sais déjà à l'avance ce qu'il y aura à cet endroit-là sur l'année 1 et ensuite sur l'année 2, 3? Comment tu organises tes rotations de culture?
Alors, il faut essayer de faire un petit peu simple pour se rappeler, parce qu'après, on oublie d'année en année. Donc, le jardin, on va essayer de faire une rotation à minimum biennale, donc tous les 2 ans. Le mieux, c'est 3 ans. On essaie un petit peu de ranger les plantes par catégorie. Il y a des plantes qui sont exigeantes sur la nature du sol, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc, voilà. En fonction de cela, on peut... Moi, cette année, je vais mettre du fumier. Je l'ai mis là où l'année dernière, il n'y en a pas eu. Donc, dans cette planche-là, on pourra partir du principe qu'on va mettre les plantes gourmandes. Par exemple, pommes de terre, par exemple, courgettes ou par exemple, tomates. Déjà, rien qu'en ayant dit ça, on peut déterminer que dans cet endroit, on a mis les pommes de terre, les tomates. Dans la deuxième partie, on va mettre les plantes moins exigeantes. D'ailleurs, on n'a pas mis d'amendement. Donc, on va mettre des oignons, on va mettre des fèves, on va mettre des petits pois. Déjà, le plan, il se fabrique comme ça. Ensuite, l'année prochaine, bien évidemment, je vais pouvoir faire l'inverse. À la place des pommes de terre, eh bien, je vais mettre mes petits pois. Par contre, je ne vais pas mettre de fumier. Et inversement, là où j'aurais mis les petits pois l'année numéro 1, mais l'année numéro 2, je ne mettrai peut-être que du compost et je mettrai une autre culture. Voilà, on va partir comme ça, sur 2 à 3 ans. Alors moi, ce que j'intègre dans ma rotation, et c'est là où c'est bien de la faire triennale, la rotation, c'est d'intégrer des jachères. Jachères fleuries ou jachères tout court. Pour moi, dès que j'ai une place dans mon terrain, avant, il y a encore 10 ans en arrière, j'avais tendance à laisser mes planches qui attendaient les prochains légumes. J'ai tendance à planter plusieurs légumes dans une saison de jardinage, dans une année. Maintenant, quand j'ai des planches où il n'y a plus de légumes, je me dépêche, sans attendre, quelle que soit la saison, de semer des jachères. Donc là, je prépare déjà l'année prochaine. Je prépare parce que la jachère va me permettre d'étouffer les herbes, donc je n'aurai pas à désherber. La jachère, je vais pouvoir l'intégrer à la terre comme du compost l'année prochaine. Et je sais déjà, à la place de la jachère, qu'est-ce que je vais pouvoir semer. Voilà. Les jachères, c'est vraiment essentiel dans un jardin. La rotation des cultures, c'est essentiel parce que ça n'a que des avantages. Ça évite que les plantes qui sont exigeantes, comme les pommes de terre, si on les met toujours à la même place, il y aura que des défauts. Elles vont toujours prendre la terre à la même, les mêmes ingrédients, si je peux dire. Elles vont épuiser la terre. Et puis, les maladies vont se concentrer au même endroit. Donc, si vous voulez moins de maladies dans vos jardins, il faut faire une rotation des cultures. Le premier médicament du jardin, c'est la rotation des cultures. C'est simple.
Et du coup, en t'écoutant, on prend conscience que faire son jardin, faire son potager, ça demande du temps et de l'implication. D'où aussi l'idée d'anticiper suffisamment l'arrivée de la saison des semis, des repiquages, etc. Et donc, tu m'expliquais que toi, dès la mi-février, tu commences les semis de solanacées. Donc déjà, est-ce que tu pourras revenir sur ce que c'est que les solanacées et comment tu t'organises du coup pour les faire en cette saison?
Voilà. Alors les solanacées, donc c'est une famille de plantes tropicales originaires d'Amérique centrale, comme la pomme de terre, comme le poivron, le piment, comme la citrouille d'ailleurs, qui n'est pas une solanacée, c'est une cucurbitacée. Ce sont beaucoup de plantes viennent de cette région-là de la planète. Donc il faut savoir que c'est une zone montagneuse et une zone tropicale. Qui dit tropicale, dit que ce sont des plantes exigeantes en chaleur, première chose, et en lumière, deuxième chose. Je dirais même que pour les solanacées, la chose la plus importante, c'est la lumière, avant la chaleur. Donc on va retenir ça. Alors les solanacées sont des plantes qui ont des cycles végétatifs longs, voire très longs. C'est-à-dire qu'une tomate va mettre à peu près 8 à 10 semaines du semis à la date à laquelle on va la repiquer. Ensuite, après ce moment-là, elle va mettre encore 2 à 3 mois pour grandir, fleurir, fructifier et que les fruits mûrissent. Donc, faut 2 et 2, 4. 4 mois. Ensuite, elle va fructifier plusieurs mois tant qu'il ne gèlera pas. Donc, le cycle végétatif des solanacées, ça peut être 8 à 10 mois. C'est très long. Donc, il faut faire les premiers semis assez tôt. Alors, par contre, on ne pourra pas installer les tomates tant qu'ils gèlent au jardin. C'est une chose à savoir. Donc, à quel moment on va pouvoir semer nos tomates? Donc, il faut partir à compte à rebours pour savoir quand je sème mes tomates. Alors, je vois des gens qui sèment leurs tomates dans leur salon au mois de janvier. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans le salon, même si le salon il y a des lumières, même s'il y a une vitre avec une fenêtre, il faut, pour les solanacées, minimum d'entrée de jeu, 10 heures de soleil par jour. Donc, si vous n'avez pas cette première condition-là, eh bien, il faut attendre encore. Et malheureusement, en France, latitude 45 degrés, au mois de janvier, on n'a que 6 heures de soleil par jour. Donc vous voyez, il y a un décalage entre le sol, la luminosité et ce dont ont besoin les plantes. Ensuite, les plantes, les tomates ont besoin de chaleur, mais je dirais c'est secondaire parce que elles s'acclimatent très bien au début d'une chaleur autour de 18-20, maximum 22. Il ne faut pas croire que si on donne 25 degrés aux tomates, elles vont pousser trop vite et mal. Voilà. Donc moi, je sème les solanacées, donc 8 semaines, comptez. Vous voulez installer vos tomates, vous êtes à Saint-Martin de l'Ansuscle, c'est quand même les Cévennes, bien exposées, peu de gelées tardives, peu de barbastes, comme on dira, dans la vallée. Donc vous allez installer vos tomates le 1er mai. Donc 1er mai, il faut semer les tomates. Donc le 1er mars, au plus tard, dirais-je. Plutôt que plus tard. Voilà. 1er mars. C'est comme ça qu'il faut compter. Si vous êtes en Haute-Lozère, eh bien, ça va être plus dur. Vous allez installer vos tomates après les scènes de glace qui sont le 11, 12, 13 mai. Et donc, vous plantez vos tomates le 15 ou 20 mai. Il faut les semer le 15 ou 20 mars. Moi, personnellement, je vais commencer à Hispaniac. Je risque tous les ans de planter les tomates très tôt dans ma serre. Très, très, très tôt. Donc, je les sème plus tôt. Mais ça demande beaucoup de travail. Donc, vous allez... on parle de la méthode?
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc, beaucoup de lumière, un peu de chaleur. Les graines de tomates sortent environ 8 jours. Les graines de poivrons, aubergines, en 10-12 jours. Voilà, il faut le savoir. Donc, je vous interdis, si je peux dire ça comme ça, les tomates, les solanacées, ce sont des plantes qui aiment être repiquées. Parce que le repiquage... va fortifier les plants, va casser la racine pivot et va faire que vous allez avoir des beaux plants de tomates, bien trapus, bien courts. C'est ce qu'on recherche. Donc, il ne faut pas semer les tomates dans des petits poquets individuels, 3 graines par 3 graines ou plus, parce que vos tomates vont tendance à filer très rapidement. Elles vont être longues, hautes, fragiles. Donc les tomates, vous allez les semer dans des petites serres. Vous pouvez acheter une boîte de croissance translucide dans la grande distribution, c'est parfait. Vous achetez une boîte comme ça, transparente. Moi, je dis ça parce que c'est pour le jardin doit être presque gratuit. Donc, vous n'avez même pas besoin d'acheter une serre. Vous achetez une boîte de croissance, vous remplissez la boîte à moitié avec du bon terreau, parce que ce sont des plantes exigeantes, et vous allez semer des graines de tomates. Alors, vous mettez environ 4 ou 5 cm de terreau dans votre boîte. Vous semez vos graines de tomates, vous les semez une par une. Vous les semez tous les 1 ou 2 cm. Donc vous ne les semez pas comme ça à la volée. Vous allez semer, vous voulez 12 tomates, et bien vous semez une trentaine de graines. C'est tout. Vous les espacez bien, vous tassez légèrement, vous recouvrez d'un demi-centimètre de compost, pas plus. Une graine n'a jamais besoin d'être recouverte de plus de 3 fois sa hauteur. Donc une graine de solanacée, ça fait environ 1 ou 2 mm de longueur. Donc vous les recouvrez vraiment d'un petit demi-centimètre. Ensuite, vous arrosez légèrement à l'eau tiède et vous fermez le capot de la serre. Vous allez mettre cette serre dans une pièce claire et vous allez attendre. Vous pouvez fermer le capot de la serre. Vous allez créer un effet de serre. Vous allez créer ce qui se crée même avant qu'on parle du réchauffement climatique, où l'atmosphère de la Terre marche comme ça. C'est-à-dire l'eau se condense avec la chaleur et retombe en pluie. Donc c'est ce que vous allez créer, un effet de serre. Au bout de 8 jours, vos tomates vont sortir. Alors, l'idéal à ce moment-là, c'est même crucial, si vous pouvez. Et s'il fait beau ce jour-là, vous avez compté, ça fait 8 jours que j'ai semé mes tomates, 6, 7, 8 jours, vous sortez vos tomates dehors, à la, qu'elles aient un maximum de luminosité. Même s'il fait, on est au mois de février, il fait 10 degrés l'après-midi, vous les sortez. Elles vont germer dehors, dans la serre, bien sûr, vous laissez le capot fermé. Alors elles sortiront un peu moins vite, elles pousseront un peu moins vite, et vous verrez que vos tomates, elles vont rester toutes courtes, toutes belles, avec des petites feuilles bien vertes, un pied bien violet, bien velu, et bien court. Déjà là, on est bien parti. Si vous les laissez sortir dedans, elles vont manquer de lumière, elles vont pousser en hauteur, elles vont filer, comme on dit. Et là, il va falloir, ça va être difficile de les récupérer. Donc voilà, si, mon conseil, moi je fais ça tous les ans. Alors bien sûr, on est en février. Donc tous les jours, vous allez regarder la météo, vous allez sortir vos tomates. C'est pratique, c'est une petite boîte qui pèse rien du tout. Le matin, avant de partir au boulot, s'il fait pas trop froid, vous sortez vos tomates dehors. Et le soir, en rentrant du travail, vous les rentrez. Donc c'est tout ce que je fais, tout mon mois de février, même une partie du mois de mars. Je guette la météo et je fais pousser au maximum mes tomates dehors. Quand il fait 10 degrés dans la serre, il fait déjà 20. Ça suffit amplement pour des tomates. Voilà, vous laissez passer 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Vos tomates, elles vont faire 6 ou 7 cm de haut et elles vont commencer à faire leurs vraies feuilles. Et quand elles vont commencer à faire leurs vraies feuilles, vous allez pouvoir commencer à les repiquer. Alors, je déconseille encore la plantation en petit pot. C'est trop tôt. Donc, ce que vous faites, vous créez une deuxième petite serre, un peu plus grande. Vous allez déraciner vos tomates une à une avec une fourchette. Donc, vous allez casser la racine pivot. Et vous allez repiquer pour une première fois vos tomates dans de la même manière que vous les avez semées là dans la petite serre. Vous les enterrez au maximum, vous allez enterrer jusqu'au cotylédon. Vous arrosez légèrement. Et vous poursuivez la culture des tomates comme ça. 3 semaines plus tard, vous refaites la même opération. Là, si vous voulez, vous pouvez les mettre dans des petits pots. Des petits pots de 8. Et là, je vous conseille d'acclimater le maximum dehors vos tomates dans un châssis, sous une vitre. Plus elles seront dehors, même si les températures sont un petit peu limites, vous aurez de beaux pieds de tomates. Et le 1er mai, vous pourrez repiquer vos tomates dehors. Bon, je peux en parler 2 ou 3 heures, alors là, on va être obligé de faire court. Puis les semis de tomates, c'est quelque chose, c'est tellement intéressant de faire, parce que vous allez pouvoir faire des variétés que vous ne trouverez pas dans le commerce. Vous voulez faire des variétés de tomates qui sortent un peu de l'ordinaire, mais tout en étant très 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 bonnes. Par exemple, vous ferez de l'ananas, tomate ananas, de belles grosses tomates, bien charnues, bien sucrées. Vous pouvez faire, tout est permis. Voilà.
On aura sûrement l'occasion d'y revenir dans la suite de la saison quand ce sera l'heure de les repiquer justement. Et du coup là, on vient de parler de la possibilité de faire dès cette saison-là les premiers semis. Et donc faut prendre en considération aussi le contexte, le climat, la luminosité, la température, que ce soit dans une petite serre ou dans une véranda. Mais je voulais aussi qu'on parle d'une autre technique qui permet aussi de faire des semis un peu précoces. C'est la technique de la couche chaude. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors la couche chaude, c'est quelque chose d'assez formidable. Ça date du XVIe siècle, du milieu du XVIe siècle. Parlons histoire un petit peu. Les rois de France, Louis XIV en particulier, adoraient manger des asperges à Noël. Donc déjà, il était fou, mais ils y sont arrivés, les jardiniers. Ils y sont arrivés tout simplement en constatant que les tas de fumier qu'on entreposait dans un coin de la ferme chauffait très fort, produisait de la chaleur. En Angleterre, on s'est même amusé, dans ces années-là, à cultiver des ananas. Le roi de France aussi a adoré les melons, sauf que dans ces siècles-là, le climat de la région parisienne, ou les châteaux de la Loire, c'était un petit peu difficile de faire du bon melon. Donc ils ont mis au point la technique de la couche chaude. Alors la couche chaude, le principe il est assez simple, il est que toute matière végétale, entreposé, si le tas est assez gros, et certaines matières végétales plus que d'autres, vont se décomposer. C'est un petit peu comme une fermentation, c'est aérobie, ça a besoin d'air. Et ça va se décomposer, et la décomposition de la matière va produire de la chaleur. Alors certaines matières sont plus à même de produire de la chaleur. Ce qui marche le plus, c'est le fumier de cheval frais. C'est comme ça qu'on fait les champignonnaires. Le champignon de Paris, ça part de ce principe-là aussi. Donc, si vous mettez dans un châssis ou dans un trou, dans le jardin, une certaine quantité de crottin de cheval frais, alors vous faites un trou d'environ, je vais dire, 1 mètre sur 1 mètre de 40 cm de profondeur, vous remplissez de fumier de cheval frais. Par couche, vous vous tassez un petit peu, pas trop, parce qu'il faut que il faut de l'air, il faut de l'oxygène. Vous arrosez, vous mettez une deuxième couche, vous tassez, vous arrosez, une troisième couche, vous tachez, vous arrosez. Et vous allez voir qu'au bout de quelques heures à quelques jours, la couche chaude va développer une chaleur d'environ 50 à 70 degrés. Ça semble peu croyable. Si vous mettez la main à l'intérieur de la couche chaude, vous vous brûlez. Voilà. À partir de ce moment-là, la fermentation va atteindre donc 50 à 70 degrés pendant quelques jours. Puis ensuite, ça va commencer le feu, le coup de feu passant. La température va descendre à 60, puis 50, puis 40, puis 30 degrés. Mais ça va prendre des semaines, voire des mois. Donc, on va utiliser cette technique, on va l'affiner, on va l'améliorer, et on va pouvoir s'en servir un petit peu de réchaud, de radiateur. Donc, sur cette couche chaude, on va mettre une couche de terreau, de terre mélangée, et on va pouvoir semer dès février, pour ne pas dire dès janvier, des plantes qui, logiquement, n'auraient pas pu se cultiver à ce moment-là en France. Alors l'idéal, c'est de les mettre dans un châssis, car un châssis, on pourra bien l'isoler. Donc on met un châssis, on met notre fumier dans le châssis, on tasse, on arrose, on met notre terre, notre compost, on ferme le châssis, on attend que le coup de feu passe, je vous le fais en accéléré. Et à partir de ce moment-là, quand vous verrez qu'environ, en touchant le dessus du compost, on a une température d'environ 30 degrés, eh bien on peut semer des choses. Alors on peut semer des tomates, justement, mais on peut semer aussi des radis, on peut tout semer. Il suffit de semer au bon moment pour que les plantes profitent au maximum de la chaleur.
Merci Jean-Jacques pour la présentation de cette alternative écologique au serre voilà. Chauffé.
C'est un peu accéléré, je m'excuse, mais on fait avec un peu le temps qu'on a. Je voulais
exactement.
Juste, tu me fais penser à quelque chose. Alors je parle fumier de cheval. C'est la matière la vraiment de loin la plus efficace pour faire des couches chaudes. Alors cheval, âne. Toute matière végétale qui est tassée comme ça, arrosée, va pouvoir produire de la chaleur. Il y a des fumiers, par contre, qui s'y prêtent moins que d'autres. Celui qui s'y prête le moins, c'est le fumier de vache. On appelle le fumier de vache un fumier froid, contrairement au cheval, qui est un fumier chaud. Le fumier de chèvre ou de mouton est un fumier chaud. Ou de lapin. Donc, voilà. Vous pouvez aussi faire avec du BRF, boire un mal fragmenté. Du moment qu'il y a un peu de verre dedans, la fermentation va pouvoir commencer. Avec du BRF, vous ferez une couche chaude à 35 degrés. Ça commencera à 35, ce qui est déjà très 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 appréciable. Et ensuite, ça va baisser, mais progressivement.
Autre chose à rajouter ou...
Oui, l'essentiel est dit, un peu en accéléré. Et...
C'est bien synthétisé, je trouve.
C'est... voilà. Après, c'est une méthode à tester et je pense... à améliorer, à affiner, faites-le et je pense que vous serez agréablement surpris de ce qu'on peut faire avec une couche chaude. Vous gagnerez un mois surtout, vous aurez des courgettes au mois de mai, vous aurez des radis au mois de février, et puis vous aurez des tomates, par exemple les tomates, ben vous les semez au mois de mars dans un châssis, alors vous ne pourriez jamais si vous n'aviez pas de couche chaude, et si vous voulez laisser vos tomates continuer à avoir de l'avance, à la fin, au mois de mai, vous les laissez sur la couche chaude. Vous en laissez 3 sur 1 mètre carré. Vous mettez des piquets. Vos tomates ont déjà un mois et demi d'avance. C'est quand même appréciable de manger des tomates mi-juin plutôt que fin juillet ou mois d'août.
Tout à fait. Merci, merci Jean-Jacques pour cette chronique jardin.
À table!
Bienvenue sur Chaud Patate,
l'émission du Pâte,
le projet alimentaire territorial du Sud-Lozère.
L'émission qui met en lumière
les acteurs et les actrices
de l'agriculture et de l'alimentation du territoire.
Un mardi sur deux à 11h.
Un vendredi sur deux à 8h30.
Sur Radio Bartas.
107 FM.
À table.